Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Maurice Genevoix, né le 29 novembre 1890 à Decize, était normalien au moment de la mobilisation. Il fut très gravement blessé au front et resta invalide de guerre. Maurice Genevoix laisse une œuvre impressionnante, dont un recueil de récits sur la Première Guerre mondiale qu'il publia en 1949. Intitulé « Ceux de 14 », ces textes redonnent voix à tous ceux qui ne pouvaient pas ou plus prendre la parole. La narration y est à la fois réaliste et marquée par un style littéraire ample, souple et poétique. Les hommes et femmes de radio, ainsi que les écrivains amis qui avaient été au front, ne s'y sont pas trompés. Ils ont mis en onde, sous de multiples formes, ce texte foisonnant. Ainsi, par exemple, Marcel Sicard en 1952.
La radiodiffusion française présente...
Moi, j'ai fait la Marne.
Ceux de 14.
Moi, j'ai fait Verdun.
Une production et une réalisation de Marcel Sicard, avec des textes de Henri Barbus, soldat au 231e d'infanterie.
La Somme.
Roland Dorgelès de l'Académie Goncourt, caporal au 39e d'infanterie.
L'Argonne.
Maurice Genevoix de l'Académie française, lieutenant au 106e d'infanterie.
Les Éparges.
Et Jacques Meyer, lieutenant au 329e d'infanterie.
La Champagne.
Avec le concours de Julien Berthaud, sociétaire de la Comédie française, Magali de Vandeuil de la Comédie française, Yves Furet et France Danielli, avec Pierre Marteville, Jean-Jacques Dreux, Jacques Toja, Guy Allan et le chanteur Yann Brieux.
La guerre, mon vieux. Tu veux savoir ce que c'était ?
Présentation de Jacques Meyer.
La guerre, mon vieux. Aujourd'hui, mon vieux a pris son sens plein. Car ceux qui l'ont faite, cette guerre, qui est pour nous sinon la seule, du moins la vraie, ils ont 55 ans pour le moins, et souvent beaucoup plus. La guerre, mon vieux, c'est dans notre souvenir quelque chose d'unique. L'image à peine ternie de la solidarité la plus pure et la plus simple que les hommes aient pu connaître, et qu'ils ont trop bien pris le temps de cesser de pratiquer. Un souvenir vivant et profond, que nous exhumons parfois quand nous nous retrouvons entre nous, ou seul avec nous-mêmes, à l'éveil d'une grande date comme celle d'aujourd'hui. La guerre, mon vieux, pour nous, comme dit Genevoix, ce n'est pas de la littérature. C'est de la chose vue, fixée sur la plaque la plus sensible de notre mémoire. La guerre, mon vieux, quand on y participait dans la BIF, simple soldat ou chef de section, ce qui est tout un, avec seulement plus de responsabilité pour le second et plus de fatigue encore pour le premier, la guerre, c'était si peu de choses, ou suivant les points de vue, tellement de choses au contraire. En tout cas, c'était des choses bien différentes de celles que le public imaginait alors. Il les comprendrait peut-être mieux aujourd'hui s'il n'avait pris la précaution de les oublier tout à fait. Spectacle restreint et sensations primitives, des obus qui éclatent, une mitrailleuse qui empêche d'avancer, des hommes qui se terrent puis repartent, un barrage à la grenade, un ami qui tombe, un cadavre sur quoi on bute, la fatigue, la faim, la soif. En somme, abstraction faite du perfectionnement des moyens matériels, presque toujours les mêmes choses. La guerre, mon vieux, moi, je l'ai faite au 329e d'infanterie dans la BIF. La guerre, elle a eu toutes les couleurs. Nos capotes bleu horizon de Biffin prenaient aussi facilement le blanc de la craie que l'ocre de la boue et verdissaient également sous le soleil et sous la pluie. La guerre, mon vieux, sûr qu'elle nous en a fait voir de dur. Les sales attaques, les coups de main, les bombardements où tant de copains sont restés. Mais on a connu aussi les secteurs calmes, pépères, comme on disait, où les pires ennemis avec la boue étaient les rats et, suivant le cas, les puces ou les poux. En 1918, quand on s'est mis à avancer, il y a eu des jours de poursuite où l'on récoltait plus de poussière que de marmites. Et puis, mon vieux, on n'était pas toujours en ligne. On allait au repos de temps en temps. Et on s'est bien payé alors quelques-unes de ces virées où l'on ne marchandait pas son plaisir. La guerre, mon vieux, c'est nous qui la faisions, bien entendu. Mais ce n'est pas nous qui la comprenions, ni qui en tirions bénéfice. La guerre, mon vieux, ça a été un sacré métier, mais presque un vrai métier. Des servitudes et des grandeurs, mais aussi des petitesses militaires. La guerre, mon vieux, mon camarade, tu sais bien ce que c'était. Mais quand nous serons morts, qui donc l'aura jamais su? La guerre, mon vieux, c'est notre jeunesse ensevelie et secrète. Rappelle-toi, mon vieux, rappelle-toi.
Je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Novembre 1914.
Les Croix-de-Bois, Roland d'Orgelès.
J'étais caporal au 39e d'infanterie. Nous étions au repos dans un petit village près de Dormans.
Alors vous vous croyez un peu là, les gars?
Ce jour-là, Bréval nous amena trois nouveaux copains.
Hé les gars, voilà le renfort.
Tu t'es pas fait voler, Bréval? Ils sont bons comme neufs.
Nous étions tous levés et entourions d'un cercle curieux les trois soldats ahuris. Ils nous regardaient et nous les regardions sans rien dire. Ils venaient de l'arrière, ils venaient des villes. La veille encore, ils marchaient dans des rues, ils voyaient des femmes, des tramways, des boutiques. Hier encore, ils vivaient comme des hommes. Et nous les examinions émerveillés, envieux, comme des voyageurs débarquant des pays fabuleux.
Alors les gars, ils ne s'en font pas là-bas?
Et ce vieux Palam, qu'est-ce qu'on y fout?
Laisse-les tranquille! Attendez au moins qu'ils aient débarqué! Mais qu'est-ce que t'as, toi, tu boites?
J'ai le talon tout écorché, je dois avoir le pied en sang. Je suis tellement chargé.
Oh, bonne mère! Mais qu'est-ce que tu as pu foutre dans ton sac? Des pavés?
Juste ce qu'on m'avait dit.
C'est les cartouches qui pèsent. Ils vous en ont donné combien?
250. Mais je les ai pas dans mon sac, elles sont dans ma musette. Vous comprenez, j'aime mieux ça, si tout d'un coup on était attaqué.
Attaqué?
Tu parles d'un mec qui s'en ressent.
Attaqué, qui dit? Mais les fadas.
Mais mon pauvre gars, tu crois pas qu'on se bat comme ça? C'était bon pour le premier mois, mais on se bat plus maintenant. Bah tu te battras peut-être jamais.
Tu ne te battras peut-être pas, mais tu en baveras tout de même.
Mais comment? Mais alors, la Marne?
La Marne? Mais c'était rien, la Marne. C'est pendant la retraite qu'on en a le plus bavé. Alors, c'est là qu'on a reconnu les hommes. Ah, la retraite!
Ils étaient tous les mêmes. La retraite, c'était l'opération dont ils étaient le plus fiers. C'était le fond de tout leur récit.
Mon vieux, la retraite!
La retraite, dans leur bouche, cela prenait des airs de victoire.
Ah, je te jure, quand tu lisais sur les plaques Paris, 60 km, ça te faisait drôle.
Et après, ça a été la Marne.
Ah, la Marne. Dis donc, tu te souviens des petits melons du Tilloy? Ce qu'on a pu s'en taper?
Bah, et les sauts de pinard quand on est rentré dans gueux.
Moi, je me rappellerai toujours la saucisse de Montmirail. Tu pouvais pas te déplacer, les obus de pistet.
J'aurais voulu y être. Être d'une victoire.
Hein? Bah, sûr que ça a été une victoire. Si tu y avais été, t'en aurais bavé. Comme les copains, mon vieux, et rien de plus. Tiens, demande voir aux gars ce qu'on a sonné aux boches à Escarde. Hein? Seulement, faut pas parler sans savoir. Tous les mecs qui ont écrit des blagues là-dessus, ben, ils auraient mieux fait de pas l'ouvrir. Moi, j'y étais, hein. Alors, je sais comment ça s'est passé. Figure-toi qu'on était resté plus de 15 jours sans toucher le prêt depuis la fin août. Alors, après le dernier coup dur, on nous a payé d'un coup. On nous a refilé à chacun 15 ronds. Ben, c'est ça, la vérité. Alors, si tu vois des mecs qui te parlent de la Marne, t'as qu'à leur dire une chose. La Marne, c'est une combine qui a rapporté 15 sous aux gars qui l'ont gagné.
Bon, eh ben les gars, il est l'heure de se coucher, hein. Les copains ont passé la nuit en chemin de fer.
Si c'est pas malheureux de se coucher là-dessus. Allez, non. Du blé qui a pas été battu.
Allez, gars, allez, va, couche-toi.
Et on ne va pas garder tout fermé ici. On va moins laisser la porte ouverte.
Hein? Ah, mais t'es en chaleur.
La porte ouverte, tu vas nous faire crever.
Allez, mets-toi là, on va se serrer pour se tenir chaud. Ah merde, la bougie, personne l'a éteinte.
Oh. J'y vais.
Allez, bouge pas. Avec ma godasse, tu vas voir, c'est facile. Hop, et voilà. Allez, maintenant, bonne nuit tout le monde.
Allez, bonne nuit.
Bonsoir. Bonne nuit.
Bonne nuit, les gars.
Le sommeil nous emportait l'un après l'autre, mêlant les respirations lentes ou saccadées, des soupirs d'enfants ou des plaintes de mauvais songes. Le sommeil nous emportait et la nuit finissait le jour qu'on avait volé au bon Dieu.
Hé, les gars!
Le feu, Henri Barbus.
En visée, un feu d'artifice!
Oh, une rouge!
Là, une verte! Les plats qui tirent!
Chez nous, on a demandé l'artillerie.
Attention, bloquez-vous!
Ça, c'est du 77.
On les méprise, les shrapnels de 77.
Ah, on les méprise. Ce qui n'empêche pas que Blébois a été justement tué par l'un d'eux il y a 3 jours.
Eh, t'en fais pas, le pot de chambre te protège suffisamment le caberlot contre les billes de plomb.
Oh, tu parles.
Alors, ça te démolit l'épaule et ça te fout par terre. Mais ça te bousille pas. Tandis que le 75 à nous...
Il n'y a pas que des 77. Il y en a de tout poil.
Ça, c'est des 150 fusants.
Et c'est même des 210, mec de veau.
Il y a des percutants aussi. Et vache, t'as visé celui-là?
Voilà notre réponse, le 75.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient de chez nous aussi?
Il est pépère, celui-là.
Ah, c'est un 220 de la batterie du point gamma. On les voit, ces obus, c'est quoi qui sortent du canon? Et si t'es bien dans la direction du tir, tu les vois de l'œil, même loin de la pièce.
Je l'ai pas vu.
Paquet. Faut-il que t'en tiennes une couche? Ton père, il était peintre, c'est pas possible. Tiens, vise celui-là, tu le vois bien?
Je l'ai vu. C'est tout ça?
C'est tout ça. Ça pèse 118 kilos, ça, ma vieille punaise. Et quand ça te tombe sur une guitoune, ça tue tout le monde qu'il y a dedans. Et puis ceux qui sont pas arrachés par les éclats sont assommés par le vent du machin ou que la botte asphyxiée sans avoir le temps de souffler, ouf!
On voit aussi très bien l'obus de 270. Tu parles d'un bout de fer quand le mortier le fait sauter en l'air.
Oh, hein? Dis donc, le 155 Rimaillot. Mais celui-là, on le perd de vue parce qu'il file tout droit et trop loin. Tant plus que tu le regardes et tant plus qu'il fond devant tes lotos.
Attention, les gars!
Oh, dis donc, faudrait pas encore recevoir ça dans le Vasistas. Même à cette distance, regarde ce morceau!
Les vaches, qu'est-ce qu'ils nous mettent?
C'est rien.
Ah, salut, sergent.
Vous trouvez que c'est rien?
Rien du tout. Il fallait voir ce qu'ils nous ont balancé à Verdun, là d'où je reviens, justement. Qu'est-ce qu'on a pris sur le crâne? Et rien que des Maus, hein, des 380, des 420, des 244. Ah, c'est quand on a été sonné là-bas qu'on peut dire « je sais ce que c'est que d'être sonné ». Les bois fauchés comme du blé, tous les abris repérés et crevés, même avec 3 épaisseurs de rondins, tous les croisements de route arrosés, les chemins fichus en l'air et changés en des espèces de longues bosses de convois cassés, de pièces amochées, de cadavres tortillés l'un dans l'autre, comme entassés à l'appel. Tu voyais des 30 types restés sur le carreau, là, d'un coup, au carrefour.
30?
Tu voyais des bonshommes montés en tourniquant, toujours bien à des 15 mètres, dans l'air du temps, et des morceaux de pantalon restés accrochés tout en haut des arbres qu'il y avait encore. Tu voyais de ces 380-là entrer dans une cambuse à Verdun, par le toit, trouer 2 ou 3 étages, éclater en bas, et toute la grande niche être forcée de sauter. Et dans les campagnes, des bataillons entiers se disperser et se planquer sous la rafale, comme un pauvre petit gibier sans défense. Et pendant des mois, ça n'a pas décessé. Ah, mon vieux, les gars qui ont fait Verdun, moi je leur tire mon chapeau.
Attention!
Ma chérie, nous sommes au repos.
Les croix de bois, Roland d'Orgelès.
Étendus sur la paille qui craque, nous écoutons le cœur grand ouvert, un murmure confus de voix sourdes et de chansons. Dans l'ombre, on entrevoit des taches blanches que la brise ondule, du linge de soldats qui sèche. Mais avec cette nuit claire, ces romances, cette tendresse éparse, on peut croire à des robes blanches qui s'attardent. On peut rêver que des femmes sont là, tout près, qui nous écoutent. On ne leur parlerait pas, mon amour, rien que pour leur présence, les sentir là. On est si bien sous la caresse de ce vent doux, Des voix alanguies reprennent le refrain en sourdine et traînent sur les mots d'amour pour les goûter mieux. Les voix s'attendrissent. La chanson meurt. On ne veut plus rien voir. Les soldats, la guerre. Elles ne sont pas tristes dans la nuit, nos capotes pâles. Tu n'aimerais pas une robe de cette couleur-là? Une autre chanson monte. On écoute sans oser remuer. Les yeux criblés d'étoiles. Les esprits sont loin, si loin. Paris, le village, le mail tranquille, le lit aux draps brodés, ou bien le grand lit de province avec son ventre rouge qu'on enfonce d'un coup de poing. Chez soi, chez nous. Le souvenir des joies passées fond dans la bouche comme une pâte exquise et les cœurs sont si tendres qu'on en fait couler des romances en les pressant.
J'ai eu ce matin un spectacle d'une grandeur inoubliable.
L'Abiff Jacques Meyer.
Je suis entré dans l'église d'Arbonnière et voici ce que j'ai vu. Dans la nef, les bas-côtés, le transept, au lieu des chaises de paille, des brancards alignés côte à côte. Autour d'eux s'affairent des médecins en blouse blanche. Dans les stalles du chœur, des boches aux uniformes passés attendent leur tour. Ici, l'on fait des piqûres antitétaniques et je vois un major entraîner doucement un blessé qui semble défaillir vers le tambour de sortie, vers l'air et la lumière. Dans le clair-obscur de l'église qui mériterait son Rembrandt, le blanc des pansements, le rouge du sang, le bleu des capotes se fondent par d'insensibles transitions en une inimitable harmonie tricolore. Et des figures pâles et terreuses, encadrées de barbes drues, ressortent sur le fond de lumière sombre comme des Christs blafards de l'école espagnole. De toutes ces images de la souffrance humaine, beaucoup frappent par leur sérénité. D'ailleurs, aurais-je, moi, combattant de demain, le triste courage de m'arrêter à celle que déforme la douleur physique? J'ose à peine, par une pudeur que tous ceux de là-bas comprendront, interroger ceux qui paraissent le moins touchés.
Dites donc, mon lieutenant.
Qu'est-ce qu'il y a?
Vous voulez bien m'écrire cette carte?
Bien sûr.
J'ai plus de main.
Mais oui, mon vieux, mais oui. Volontiers. Qu'est-ce que je mets?
Ma maman chérie.
Ma maman chérie.
Je suis blessé.
Blessé?
Mais très légèrement.
Très légèrement.
Tout va bien. Le moral est bon.
Moral est bon.
Et n'oubliez pas, mon lieutenant, ne t'en fais pas. Ma chère maman.
Cette fois, le « ne t'en fais pas » prend la valeur de la plus précieuse des abnégations. C'est le temple du sacrifice d'un dieu devenu celui du sacrifice des hommes. Et cependant, devant l'autel, dans le poudroiement d'or qui sort des vitraux, je vois des soldats, les miens. Les frères de ceux qui, à leurs pieds sur ces brancards, souffrent et meurent. Je vois des soldats ériger leurs silhouettes rudes de paysans en extase, ramenés par l'approche de la tourmente à la naïveté de leurs aïeux du Moyen-Âge. De ces aïeux simples comme eux, et comme eux casqués. Et qui, comme eux, crurent et prièrent pour triompher de la souffrance et de la mort.
Thank you.
Il pleut.
Ceux de 14, Maurice Chenevoix.
La pluie est tombée toute la nuit pendant que nous allions de Rupt au carrefour de Calonne. Elle tombait comme nous sommes arrivés, et ce soir, toujours, elle tombe.
Mon lieutenant, je vais attacher une toile de tente au rondin. Peut-être que l'eau ne percera pas.
Si tu veux, Banchon.
Ah, oh, quel fumier de pays! À Calonne, aux éparges, c'est partout de la gadouille et de la flotte! Ouais. Vous rappelez-vous seulement qu'on a vu le soleil? En 14, au mois d'août, au mois de septembre, on se battait en plein soleil. Les copains qui prenaient une balle dégringolaient à la lumière en capote bleue et pantalon rouge. On les voyait de loin et on les voyait tous. Et puis c'était bien des soldats tués. Tandis que si demain nous nous tabassons là-haut, nos morts tomberont à même la boue. Des morts salis rien qu'en tombant. Et bientôt même plus des morts, des petits tas de boue, de la boue dans la boue. Plus rien. Attention! Oh merde alors!
Eh bien, Panchon.
Un peu plus court, mon lieutenant, seulement 10 mètres plus court et. Oh, qu'est-ce qu'on serait maintenant?
Même plus des morts, Panchon. Des petits tas de boue. De la boue dans la boue.
Hein? Qu'est-ce que vous dites, mon lieutenant?
Ce que tu viens de dire, Panchon.
Moi? Quand ça?
Il y a une minute, Panchon.
Ah? Vous croyez? Eh ben, en ce cas, autant pour moi. La rafale est passée, le moral est à la hausse!
Mêlée de dur grésil, la pluie nous cingle au visage. Nous marchons en aveugle dans un vacarme d'eau bondissante où se perd le bruit de nos pas. La pluie galope sur un lac d'eau pâteuse qui se loft autour de nos jambes, qui nous reprennent, une jambe après l'autre, chaque fois que nous leur échappons. Les semelles collent, clapantes, à chaque pas. On glisse les mains en avant, à leur tour collées à la fange, englouties jusqu'aux poignets. On avance en rampant, les coudes dans la boue, les genoux dans la boue. On entend la pluie teinter sur les gamelles, crépiter sur le cuir des sacs, cascader par-dessus les talus. Et on rampe jusque là-haut. Jusqu'aux tranchées.
Laissez passer un blessé!
Laissez passer un blessé!
Laissez passer un blessé!
Laissez passer un blessé!
Qui est-ce?
Vautier, mon lieutenant. Il venait de la source, une balle folle l'a traversé un peu au-dessous de l'aisselle. Oh, rien de grave, enfin, du moins, je crois pas. Leve-la.
Alors, Vautier?
Ah, il n'y a qu'à moi, mon lieutenant. Oh, je ne souffre plus guère. Tout juste si ça tire un peu. Oui. L'embêtant, c'est d'avoir été mouché comme ça, aux abris. On va dire que je l'ai fait exprès. Enfin, tant qu'à prendre une balle, j'aurais bien voulu autrement. Si jamais on me demande dans quelle bataille j'ai été blessé, qu'est-ce que je répondrais, mon lieutenant?
Oh, mais écoutez ce pauvre couillon, mon lieutenant, si c'est pas être cave. Ce qu'on dira? Bon, on dira que deux blessures en 4 mois, c'est suffisant pour un seul homme.
Ouais, oh.
Qu'une balle dans la peau, qu'on l'ait prise plus près ou plus loin, c'est toujours une balle dans la peau, non?
Ouais, toi,
oh, Pierre, tais-toi, t'as la fièvre. Allez, fume ta sèche. Attends, je vais t'allumer. Ah! Maintenant, t'as plus rien qu'à te laisser faire.
Tu verras là-bas à l'arrière, tu verras. Il y aura un lit près d'une fenêtre, avec des draps bien secs, tout blancs.
Tu dis ça?
Il y aura tes vieux. Il y aura un gros poêle plein de charbon.
Tu dis ça?
Il y aura une infirmière. Une jeune. Avec des guiches et des bras nus.
Tu dis ça?
Il y aura du soleil au carreau. Des sèches toutes faites sur la table. Puis il y aura...
Tu dis tout ça.
Tais-toi, écoute. On te mettra une écharpe en toile fine. On te donnera une vareuse neuve, un calot neuf et des bottines. Tu seras propre des pieds à la tête. Il fera toujours beau temps.
Tu dis tout ça?
Tais-toi. Allez, tais-toi, il va faire nuit, on va te descendre. Tu vas t'en aller.
Mon lieutenant!
Qu'est-ce qu'il y a, Bonchon?
Mon lieutenant, il va falloir prendre des écopes et des pelles. La boue a coulé dans la sape numéro 7. Alors si on dégage pas, les hommes du petit poste, ils pourront plus passer. Tantôt, déjà, ils ont cru y rester. Ils étaient pris jusqu'au rein et les boches leur tiraient dessus. Et alors il a fallu qu'ils se déséquipent, qu'ils se déshabillent à moitié. Richaume chialait, Jande lui a foutu des claques.
Bonchon se tourne tout d'un coup, il glisse, ouvre les bras comme un noyé et tombe dans la boue durement de tout son poids. Il reste allongé sur le ventre, collé à la boue par le ventre. Les paumes à plat, la tête rejetée en arrière pour sauver son visage de la boue.
Bah alors quoi, tu peux pas te relever, non?
Il ne répond pas, ses épaules tressautent, bizarrement. D'une secousse, il roule sur le flanc, décolle ses bras et s'appuie sur le coude. Alors je m'aperçois qu'il rit. Il rit silencieusement, convulsivement, la bouche grande ouverte. Enduit de boue, il disparaît, mêlé à la couleur du sol. Je ne vois plus que la tache claire de son visage. De ce visage qui sort de la boue et qui rit. Et qui dit...
Quand même, il y a pourtant de quoi se marrer à force! Alors les copains, qu'est-ce que vous en dites?
Le feu, Henri Barbus.
Hein? Ça fait du bien se reposer.
Ah oui alors, et une flotte plus.
Ce serait pas de veine de recevoir la flotte sur la tête jusqu'au cantonnement.
Ah, et puis dans cette grange, on est à l'abri de l'inondation du monde.
Bonjour les gars.
Bonjour, comment vas-tu?
Salut Edor, alors te v'là rentré de perme?
Oui, me v'là. Je vous retrouve au repos, c'est une chance.
Bah dis donc, t'as pas l'air gay? Sacré vénard qui vient de revoir sa femme.
Eh va bien ta petite Mariette?
Très bien.
Et dis donc, il vivait que pour elle, pour la revoir. Alors, tu l'as revue, ça y est? Et c'est pour ça que tu fais cette tête-là?
Je l'ai vue, bien sûr, mais une fois seulement.
Une fois en 6 jours? Qu'est-ce que tu racontes, hein?
La vérité vraie, hein? Une fois.
Quoi?
Il n'y a pas eu moyen d'avoir mieux.
Oh là là,
c'est pas de veine, je dis pas, mais c'est comme ça.
Allez, raconte, raconte, mon vieux.
Tu sais que nous habitons Villers-l'Abbé, à un mot de 4 maisons à cheval sur une route.
Oui, alors.
Une de ces maisons, c'est justement notre estaminet. Que Mariette retient depuis que le patelin n'est plus amoché par le marmitage.
Ouais.
En vue de ma permission, elle avait demandé un laissez-passer pour Mont-Saint-Éloi, où sont mes vieux. Tu sais si la combine?
Tu penses?
Ouais. Mais manque de peau. Je suis parti en perme avant qu'elle ait eu son autorisation.
Non.
Et tu sais qu'il ne faut pas louper son tour de perme. Je suis donc resté avec mes vieux à l'attendre. À la fin du 6e jour, le dernier, la veille de rentrée, un gars en vélo m'apporte une lettre de Mariette, qu'elle n'avait pas encore son laissez-passer.
Oh mince!
Il n'y avait qu'une chose à faire. Demandez-moi la permission au maire de Mont-Saint-Éloi qui demanderait à l'autorité militaire que j'aille au galop la voir à Villers.
Tu aurais dû faire ça le premier jour et pas le 6e.
Évidemment. Mais j'avais peur de me croiser avec elle et de la louper. Vu que dès mon arrivée, je l'attendais toujours. Et qu'à chaque instant, je pensais la voir dans la porte ouverte. J'ai fait ce qu'elle me disait.
Bah, en fin de compte, tu l'as vu?
Qu'un jour.
Quoi?
Ou plutôt une nuit.
Une nuit, dis. Ça suffit avec un zigoto comme toi.
Tu parles d'une nouba. Mais aussi, vise un peu sur son air fatigué.
Allez, les gars, bouclez-la 5 minutes, vos grandes gueules.
Oh, te fâche pas, allez, te fâche pas, raconte-nous ça, petit.
C'est pas une histoire. J'ai donc visité le maire et je me suis mis en route hier vers 2h de l'après-midi. J'avais donc plus qu'une nuit de permission. Flottait. Jamais j'ai vu un temps pareil. 6 jours qui flottaient. 6 jours que le ciel lavait la terre et la relavait. Mais en arrivant au pays, on était plusieurs. Des permissionnaires qui passaient par Villers pour aller chez eux. On était 5 vieux camarades qui se connaissaient pas. Je vous ai dit qu'il y a 4 maisons dans le patelin. Je retrouvais rien de rien. L'eau tombait à plein seau et il faisait noir. Enfin, en bas, toute seule, je vois notre maison. Je cours comme un dératé, et les autres derrière moi. Mariette! Je la vois dans la porte, lever les bras au ciel. Derrière cette mousseline de soie et de pluie. De pluie si forte qu'elle la refoulait et la retenait. Toute penchée entre les montants de la porte, comme une sainte vierge dans sa niche.
Edor!
Je me précipite, je la prends dans mes bras.
Edor!
Mariette!
Entre, mon chéri. Entre
oh,
vite.
Oh, Mariette, que je suis heureux!
Entrez,
asseyez-vous, les gars.
Oui, merci.
Où vont-ils, ces messieurs ?
On va à Vauvelles, madame.
Jésus, mais vous n'y arriverez jamais ? Vous pouvez pas faire une lieue dans la nuit avec des chemins détrempés, des marais partout. Oh. N'essayez même pas.
On ira demain alors, on va seulement chercher où passer la nuit.
Je vais aller avec vous jusqu'à la ferme du Pendu.
La ferme du Pendu ? Mais mon chéri, elle n'existe plus.
Ah ?
Dites, madame, il n'y aurait pas une cave ici ?
Elle est pleine d'eau. On voit pas la dernière marche de l'escalier qui n'en a que deux.
Ah, zut alors. Parce que je vois pas de grenier non plus. Bonsoir, mon vieux. Allez, les gars, on les met.
Oui, quoi, vous partez par un temps pareil ?
Tu penses pas qu'on va t'empêcher de rester avec ta femme ? Tu l'as pas vue depuis des mois.
Depuis un an et demi.
Tu penses ? Alors, il est 9h du soir, t'es obligé de ficher le camp avant le jour. Allez, bonsoir. Vous venez, vous autres ?
Allez, d'accord. Bonsoir, monsieur dame.
Mariette, on peut pas.
Non, Edor, on peut pas.
Non, les copains, jamais de la vie. On vous laissera pas partir comme ça, ça se peut pas.
Mais mon vieux...
Il n'y a pas de mais mon vieux. D'ailleurs, regarde, Mariette a fermé la porte à clé. Et on est resté comme ça, bien sagement, toute la nuit. Assis, calés dans des coins, à bâiller, comme ceux qui veillent un mort. On a parlé un peu, d'abord. De temps en temps, l'un disait...
Est-ce qu'il pleut encore ?
Et il allait voir. Et il disait...
Il pleut.
On l'entendait, du reste. Quelquefois, un ou deux dormaient dans le tas. Mais il y en avait toujours un qui bâillait, ouvrait un œil, par politesse, et s'étirait ou se levait à moitié pour se rasseoir mieux. Mariette et moi, on n'a pas dormi. On se regardait, mais on regardait aussi les autres qui nous regardaient. Et voilà. Le matin est venu débarbouiller la fenêtre. Je me suis levé pour aller voir le temps. Il pleuvait toujours. Mariette avait les yeux rouges de m'avoir regardé toute la nuit. Entrez les moi, un poilu grognotant bourrait sa pipe.
Je vais préparer le café pour tout le monde.
On l'a bu. Maintenant, fallait s'en aller tous.
Au revoir, madame, et merci.
Au revoir, madame.
Et
au revoir, madame.
Pardon de vous avoir tant embêté. Hein.
C'est rien, monsieur. Bonne permission à tous.
Allez, merci.
Au revoir, madame.
Au revoir.
Au revoir, mon chéri.
Oh, mon vieux. Est-ce que je l'ai serré fort ? Pendant au moins une demi-minute. Et j'étais content tout de même que Mariette n'ait pas voulu fiche dehors les camarades comme des chiens. Et je sentais aussi qu'elle me trouvait brave de ne point l'avoir fait.
Tiens. J'avais acheté un jambonneau. C'était pour le souper, pour tous les deux. En même temps qu'un litre de vin bouché. Ma foi, quand j'ai vu que t'étais 5, j'ai pas voulu le partager tant. Et maintenant encore moins. Voilà le jambon, le pain et le vin. Je te les donne pour que t'en profites tout seul, mon chéri. Eux, on leur a donné assez.
Et je suis parti. Et me voilà.
Mon vieux.
C'est gentil, cette idée qu'elle a eue, hein. Elle m'a tout fourré dans ma musette. Tenez, les voilà, le jambon, le vin et le pain. Vous savez pas ce qu'on va faire, les copains ? Eh ben, on va se partager tout ça, hein, mes vieux poteaux. Et je suis sûr que même si Mariette le savait, elle serait bien contente.
Attention, les enfants, on va attaquer. Vous allez bien marcher, hein ?
Oui, sergent.
Dans combien ?
Dans 2 minutes.
2 minutes. Encore 2 minutes à vivre, peut-être. 2 minutes pour sortir de la tranchée et trouver la mort. 2 minutes. Je les regarde. Ils se rangent, leur couverture en sautoir, la jugulaire du casque au menton,
appuyés sur leurs fusils. Je regarde leurs faces crispées, pâlies, profondes. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des aventuriers, des guerriers. Ce sont des laboureurs, des ouvriers qu'on reconnaît dans leurs uniformes. Ce sont des civils déracinés. Ils sont prêts. Ils attendent le signal de la mort et du meurtre. Mais on voit en contemplant leur figure entre les rayons verticaux des baïonnettes que ce sont simplement des hommes. Chacun sait qu'il va porter sa tête, sa poitrine, son ventre, son corps tout entier, tout nu, aux fusils braqués d'avance, aux obus, aux grenades accumulées, prêtes à la méthodique et presque infaillible mitrailleuse, à tout ce qui attend et se tait effroyablement là-bas. Les secondes passent. On voit ce qu'il y a de songe et de peur, et d'adieu dans leur silence, leur immobilité, dans le masque de calme qui leur étreint surhumainement le visage. Ce ne sont pas le genre de héros qu'on croit, mais leur sacrifice a plus de valeur que ceux qui ne les ont pas vus ne seront jamais capables de le comprendre. Ils attendent. L'attente s'allonge, s'éternise. La fin du jour répand une sombre lumière grandiose sur cette masse forte et intacte de vivants, dont une partie seulement vivra jusqu'à la nuit. Le soir se prépare ainsi qu'une vague menace glacée. Il va tendre devant les hommes son piège grand comme le monde.
Attention, les enfants.
C'est à nous. En avant!
En avant!
En avant!
Il a été touché sur le parapet. Il est retombé dans la tranchée. La balle l'a frappé en plein ventre. Il geint doucement et il murmure quelque chose.
Mariette. Mariette.
Il venait de rentrer de permission.
Mariette. Pourquoi? Pourquoi? Dis, Mariette, je voudrais savoir.
On a besoin de savoir qu'une chose. Et cette seule chose, c'est que les Boches sont chez nous, enracinés. Et qu'il ne faut pas qu'ils passent. Et qu'il faut même qu'il s'en aille le plus tôt possible. Il ne faut pas qu'il passe. Il ne faut pas qu'il passe.
Ils ne passeront pas.
On est sorti.
La Biff, Jacques Meyer.
On s'est frayé un chemin à coups de grenade qui éclatait brutalement dans l'air sonore ou sourdement dans les abris. Et on les laissait tomber. Du boyau que nous avons quitté Champion avec sa section de mitrailleuse protège notre avance par un rideau de balles dont quelques-unes écrètent le parapet et font plonger les têtes. À une bifurcation, Sauvaget part à gauche avec les grenadiers. Il m'en laisse une équipe pour me couvrir dans le boyau de droite. Quelques cadavres, des entrées d'abri où tombent des grenades, des vêtements, des sacs abandonnés. J'ai l'impression qu'on n'avance pas. Le moulin, notre objectif, est-il seulement un peu plus proche qu'au départ? À tout prix, il faut savoir. Le parapet est très haut, je me fais hisser jusqu'au niveau du sol. Le moulin, le fameux moulin, dresse en face de moi tout près sa ruine rose écroulante et d'une tranchée bouleversée qui serpente à sa base, monte un peu de fumée, celle des mitrailleuses de tout à l'heure. Il n'y a plus à réfléchir. Il faut y aller. Je n'ai même pas le temps de me demander pourquoi ils ne nous tirent pas dessus. Ma section part en courant, baïonnette haute. Et au même instant, des bras se lèvent au-dessus de la tranchée, puis des têtes rondes, au calot à bordure rouge. Nous sautons au fond, et déjà, de peur de la grenade incendiaire, les camarades se pressent en grappe à l'entrée des abris. Mais il ne s'agit pas de nous arrêter en si beau chemin. Déjà, sur notre gauche se dessinent les silhouettes des grenadiers de Sauvinger qui ont dû réussir aussi bien que nous. La section se reforme. Derrière nous, strictement parallèle, les tirailleurs de la 24. Entre les deux lignes, un isolé, je reconnais, une des deux mauvaises têtes de ma section, qui revenant de la soupe quelques minutes après le départ de l'attaque, n'a pas cru que le départ devait être escamoté pour si peu. Et forme à lui seul, avec ses deux marmites remplies pour toute arme, une vague d'assaut à la fois comique et touchante. Nous contournons le moulin, parmi un chaos de trous d'obus, de tranchées éboulées, de piquets tordus, de fils de fer enchevêtrés, avec de temps en temps des abris aux toits effondrés, et aux rondins meurtris où le jour pénètre comme par une blessure, révélant un fouillis malpropre. Les grenades y tombent avec un bruit mat, et l'éclatement assourdi nous arrive quand nous les avons dépassées. Maintenant, tout le village qui s'aligne en bordure de la grande route s'offre à nous d'un seul coup d'œil. C'est un Pompéi où les briques, les ardoises, les tuiles et les fragments de poutre remplacent la lave et les scories. À la lisière où nous sommes parvenus, nous sommes en plein dans les jardins, et à côté des choux qui devaient les nourrir, la sentimentalité allemande a respecté les fleurs de nos jardins de curé. Malgré le déluge de fer qui s'est abattu là, quelques-unes restent debout. Et nos bonhommes, d'un geste de victoire, les mettent au canon de leurs fusils, comme jadis en province, lors des retours du régiment après les pacifiques concours de tir. J'en serre une dans ma boîte à gaz qui est mon portefeuille le plus à portée. Il y a même encore quelques fraises, et leur goût, malgré la terre qui les couvre d'écailles, est délicieusement bucolique et frais par cette chaude journée de combat en juillet. Sauvager, lui, entreprend le nettoyage du village. Il est en manche de chemise, son revolver dans sa poche et son fidèle ordonnance le suit portant sur l'épaule, tel un inoffensif sac de patates, un sac de grenades chargé. Nouveau discobol, le geste large du grenadier arrondissant trêve son bras court et musclé. Il en lance sur les toits, dans les portes, par les fenêtres des maisons suspectes, tandis que l'ordonnance, sans même s'arrêter ou se retourner, les tire du sac et les sème par les soupiraux des caves d'un geste machinal et indifférent qui, dans les circonstances, touche, sans s'en douter, au sublime. Ici, des cadavres en plus grand nombre, Feldgros, presque tous. Mais il y a aussi des corps bleu horizon, quelques soldats de l'attaque d'hier, des soldats de chez nous. Et là, sur le bord d'un trou d'obus, la main crispée sur un revolver au barillet vide de balles, sans blessure apparente, mais la figure tuméfiée et marquée de taches violettes qui sûrement sont des coups de crosse. Voici mon ami, mon camarade, qui hélas n'est pas prisonnier. En même temps que les larmes me montent aux yeux, car cette fois j'ai pu pleurer, une association d'idées tragiquement burlesque me fait penser à ces belles bottes qu'il m'avait léguées en riant il y a 8 jours pour ne pas fournir de cuir aux boches. Tête nue, avec ses cheveux blonds retombant en frange sur le front, sa figure de 20 ans vidée de sang, je le revois. Si droit, si jeune, si chic. Et il a dit mourir tel qu'il était. Il a sûrement refusé de se rendre, tirer ses 6 cartouches, et après cela, chevalier égaré dans cette guerre de machines, mourir fièrement sous les baïonnettes. Cette fois, la rage me prend, et avec elle, cette stupeur toujours vraie, toujours renouvelée, de sentir qu'un ami cher, un proche, un être qui faisait partie intégrante de votre vie, n'est plus. Il n'y a plus rien. Que c'est fini.
Et je les ai tous revus.
Ceux de 14, Maurice Genevois.
Tous, même ceux qui furent tués loin de moi et que je n'avais pas vus. Porchon, mon ami, qu'est-ce qu'on a fait de toi? Juste au bas du boyau, à quelques pas du poste de secours, en 77, t'as ouvert la poitrine. Tu es tombé la face contre terre et tu es mort. Est-ce que tu te battais alors? Et Butrel, qui descendait chercher de l'eau? Et Trouba, déjà blessé? Et le paralysé couché sur les cadavres. Sur la crête, les obus ont tué Jean-Selme, un médecin du 3e bataillon. Les obus au village ont écrasé un poste de secours. Les obus sur la route du Mesnil ont tué des blessés qui s'en allaient. Pourquoi? Pourquoi ma tranchée pleine de morts? Tous ces morts déchiquetés, éventrés, broyés, tombés les uns auprès des autres, sans avoir tiré une cartouche. Pourquoi l'entonnoir plein de morts et le coin d'acier froid fiché dans le crâne de Reynaud? Pourquoi? Pourquoi cet énorme morceau de fond entretombant de si haut sur la jambe du capitaine secousse? J'entends sa voix, son accent de douceur stupéfaite et résignée. Ah, oh, ma jambe! Le commandant Sénéchal ne peut plus parler. Petit Bru recommence à hurler. Bilorey court, tombe, se relève et court. La violette se cache pour mourir et sa main frissonne sur sa tête dans une moufle de laine bleue.
Et Gilbert, mon pauvre Gilbert.
les croix de bois, Roland d'Orgelès.
Gilbert était resté couché sur le côté comme il était tombé. La douleur l'avait engourdi et il ne sentait plus ses membres, ni sa tête. Il ne sentait que sa blessure, la plaie profonde qui lui fouillait le ventre. La première idée qui lui vint le frappa rudement en pleine poitrine.
Est-ce que les brancardiers vont venir ?
Oui, oui, certainement. Quand la nuit sera tout à fait tombée.
Oui, mais s'ils viennent pas.
Avec le soir, la canonnade s'apaisait. Il rôdait un vent froid qui sentait la pluie et la terre visqueuse glaçait ses jambes. La peur se rapprochait, couleur de nuit.
Il faut pas rester sans bouger. Si je m'évanouis, on me verra pas. On me laissera mourir. Il faut que je me redresse. Il faut que j'appelle. Je vais m'adosser à un arbre. Et me penser. Quand des soldats passeront, je crierai. Il faut. C'est ma peau. Oh. L'hémorragie doit être arrêtée. Ça coule plus. Oh. Je vais faire mon pansement.
Il prit son paquet de pansements dans sa cartouchière et déchira l'enveloppe. Lentement, pour ne pas souffrir, il déboucla son ceinturon, ouvrit sa capote et son pantalon, puis il essaya de soulever sa chemise. Ce fut horrible. Il lui sembla qu'il allait s'arracher les entrailles, emporter sa chair. Torturé, il s'arrêta, sa main posée sur sa peau nue. Il sentit quelque chose de tiède qui doucement lui coulait le long des doigts. Alors, effrayé pour arrêter son sang, il prit son pansement et sans le dérouler, en tampon, il l'appliqua sur sa blessure. Il mit par-dessus l'enveloppe de grosse toile, puis son mouchoir, et pour tenir cela bien serré sur la plaie sanglante, il referma son pantalon. Torture atroce qui lui broya les reins.
Vont-ils venir ? Les brancardiers, vont-ils venir ?
La pluie à gouttes larges et lourdes lui fit un bien infini en s'écrasant sur son visage. Gilbert sentit sa tête s'alourdir, tout son corps s'écraser.
Non, non,
une fois non. Encore, il se raidit. À présent qu'il faisait noir, les brancardiers allaient sûrement venir, ou des renforts. Quelqu'un.
Il faut pas. Non, 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 il faut pas.
Non, Gilbert, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas mourir.
Il faut pas. Il faut pas. Il faut pas. Il fait noir. Il faut qu'on sache. Qu'on m'entende. En revenant de Montmartre à Paris, je rencontre un grand prunier qui était couvert de prunes. Là, le beau temps. Hurle. Là, le beau temps. Pourvu que ça dure. Là, le beau temps. Pour les amants.
La pluie maintenant tombait plus serrée en rafales froides, faisant un bruit plus sourd sur les capotes des morts.
Je rencontre un grand prunier qui était couvert de prunes. Jette mon bâton dedans. J'en fais tomber quelques-unes. Là, le beau temps.
La nuit semblait se mettre en marche sur ses 1000 pattes d'eau qui piétinaient. Les lèvres de Gilbert semblaient bouger encore. Son souffle épuisé mourait dans un murmure que recouvrait la pluie.
Là, le beau temps. Tiroli, beau temps. Pourvu que ça dure.
La pluie ruisselait en pleurs le long de ses joues amaigries. Puis de lourdes larmes coulèrent de ses yeux creux.
Là, le beau temps.
Les deux dernières.
Oh, Gilbert. Oh, mes amis. Mes camarades.
J'ai été blessé,
On m'a évacué.
Ceux de 14. Maurice Genevoix.
Je suis à l'hôpital. Et ma guerre est finie. Je vous ai tous quittés, vous qui êtes morts près de moi. Vous que j'ai laissé dans le layon de la forêt, aventuré au péril de mort. Vous m'avez écrit, ne pensez plus à nous. Oh, mes amis, est-ce possible? Que serais-je sans vous? Mon bonheur même sans vous, que serait-il? Excusez-moi, mes amis, on a frappé à la porte de ma chambre.
Entrez!
Mon lieutenant, votre dépêche est partie avant-hier. Combien faut-il de temps pour venir de chez vous?
Elle sera là ce matin.
Il y a un train qui arrive à 10h. Il faut 10 minutes de la gare ici. Et il est 10h05.
Merci.
Dès que la personne sera là, mon lieutenant, je la conduirai jusqu'à votre porte.
Merci. Je vous ai laissé un moment, mes amis. Pardonnez-moi. Mais elle va venir. Voyez-vous, j'étais pareil à ceux qui sont morts, à ceux qui doivent encore mourir. Et toute ma vie est là, douce et chaude comme une poitrine que je serrerai contre la mienne. À chaque seconde maintenant, chaque fois que je regarde cette porte, mon cœur bat et des larmes viennent mouiller mes yeux. Oh, mes amis, est-ce ma faute si j'ai tant changé? Vous me dites que non, vous me dites qu'au milieu de vous, j'étais le même et que nous étions vraiment frères. Chacun de nous avec son bonheur endormi. On se croit résigné à mourir et parce que la vie est là, une houle de bonheur monte et gronde. Et des larmes vous viennent aux yeux. À regarder une porte qui va s'ouvrir. Notre guerre. Vous et moi, quelques hommes, une centaine que j'ai connus. Vous n'êtes guère plus d'une centaine et votre foule m'apparaît effrayante, trop lourde, trop serrée pour moi seul. Combien de vos gestes aurais-je perdu chaque demain? Et de vos paroles vivantes et de tout ce qui était vous? Il ne me reste plus que moi. Et l'image de vous que vous m'avez donnée, presque rien. Trois sourires sur une toute petite photo. Un vif ventre de mort, la main posée sur leur épaule. Ils clignaient des yeux tous les trois à cause du soleil printanier. Mais du soleil sur la petite photo grise, que reste-t-il? Entrez!
Mon amour, mon cher époux.
Et ce fut l'armistice, la paix, l'occupation en Allemagne.
La guerre, mon vieux. Jacques Meyer.
Jusqu'à ce jour de 1930 où j'ai vécu une journée particulièrement émouvante. La population d'un petit village de la Somme, Estrée de Niécourt, nous avait invités à fêter sa restauration. Nous avions attaqué et délivré le village 14 ans plus tôt, en 1916. Inauguration du monument aux morts, ce fut un ancien télégraphiste de chez nous, devenu professeur de séminaire, qui officia à l'église. Un ex-lieutenant mitrailleur y chanta. L'ancien aumônier du régiment, le célèbre père Sainte-Marie, donna le sermon et appela la paix sur le village. Et à la fin du déjeuner, notre ancien porte-drapeau retraça, d'une éloquence directe et hachée comme les faits même, la fin de notre colonel Barca, mort au combat sans souffrir, de la mort qu'il eût choisie et celle si tragique du vieux docteur Drouard. La fin de l'après-midi fut pour le père Sainte-Marie et pour moi une sorte de pèlerinage. Voici l'emplacement du moulin où les ronces et les hautes herbes ployées par le vent n'ont plus à cacher qu'une entrée de cave. La sucrerie de Don Pierre, le village de Fay, le bois du Satyr, le bois Foster, la tranchée des saules, il reste encore un saule. C'est là que Sauvaget engagea son attaque à la grenade. J'ai presque le même sursaut de pitoyable émoi à l'endroit précis où, 14 ans plus tôt, je butais presque sur le corps mutilé du charmant Freinet. L'église d'Arbonnières. Nous avons erré un moment au coucher du soleil dans le calme du vent apaisé entre les tombes du cimetière militaire de Marcel Cave. La guerre, mon vieux, la guerre. Trop de noms sur les croix de bois ont été délayés par la pluie, morts rayés une seconde fois. Et nous sommes peut-être passés sans le soupçonner près de celle du petit Sauvaget que nous cherchions. Fin presque douce de ce pèlerinage où revit, apaisé, une chaude journée d'il y a 15 ans qui fut violente et meurtrière. Et là-bas, dans le jour qui finit, un village de pierre neuve donne à ses morts leur définitive consécration. Image des générations enchaînées se transmettant la flamme vivante. Pour tous ces enfants nés pendant ou après la guerre, et qui n'en ont rien connu, ce n'a été qu'une cérémonie où l'on dépose des fleurs au pied d'un monument, où l'on accueille des inconnus qu'il faut respecter, et qui sont les anciens combattants. Voilà pour de bon le symbole qui nous relègue dans le passé, nous, et notre guerre. Car la guerre, mon vieux, toi, mon camarade, mon ami, tu sais bien ce que c'était. Mais quand nous serons morts comme les autres, qui donc l'aura jamais su? La guerre, mon vieux, c'est notre jeunesse ensevelie et secrète. La guerre, mon vieux.
Sous les auspices de la FARAC, Fédération des Amicales Régimentaires et d'Anciens Combattants, la radiodiffusion française vient de vous présenter Ceux de 14. Avec des textes de Henri Barbus, Roland Dorgelès de l'Académie Goncourt, Maurice Genevoix de l'Académie Française et Jacques Meyer. Interprété par Julien Berthaud, sociétaire de la Comédie Française, Magali de Vandeuil de la Comédie Française, Yves Furet et France Danielli, avec Pierre Marteville, Jean-Jacques Dreux, Jacques Toja, Guy Allan et le chanteur Yann Brieux. Présentation de Jacques Meyer. Prise de son, Gérard Delouvain. Collaboration technique, Henri Navier. Production et réalisation de Marcel Sicard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 novembre 1952.